CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.FM or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Pourquoi les jeunes LGBT ne se sentent pas en sécurité à l'école? 17 mai 2018, c'est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, ayant pour thème cette année le droit des personnes LGBT dans le monde. Un événement rassembleur et un moment de convergence des actions de lutte menées contre l'homophobie et la transphobie dans le monde. Quels sont les enjeux actuels et les avancées des droits LGBT dans le monde? Chaque activité organisée est un petit pas de l'avant. Vous organisez une activité pour le 17 mai prochain? Dites-le nous à popourri@cut.fm. 17 mai 2018, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Engageons-nous. Eh oui, 50 ans déjà. Mai 68, quel héritage. En France, mai 68 a soufflé un vent de révolte et entraîné de nombreux changements de société. Quel souvenir gardez-vous de cette période? Aujourd'hui, qu'évoque encore mai 68 pour vous? Est-ce une époque qui vous inspire, qui vous fait rêver? Qu'est-ce qu'elle a apporté dans le monde de 2018? Enfin, pour quelle évolution de société, y compris les droits des femmes, l'éducation, les personnes handicapées, la liberté d'expression? Descendriez-vous dans les rues aujourd'hui pour militer contre les injustices ou vos droits? Tout au long du mois de mai 2018, escapade audio sur CUT 89,5 FM, retour dans l'histoire de ces pays qui, eux aussi, ont connu mai 68, de Dakar à Antananarivo, au Madagascar, en passant par Bamako, au Mali. Des émissions sur mesure, où les voix des sans-voix se font entendre. Mai 68, 50 ans après, avec RTL, RFI, Europe 1, des professeurs, des écrivains, des historiens, Ciné Franco et les bandes sonores de l'Institut National des Archives France. Pour participer à nos émissions, une seule adresse, popourri@cut.fm. Mai 68, 2018, 50 ans de lutte et de liberté d'expression à l'antenne de CUT-FM.
C'est la production web télé du groupe Média TFO dédiée à l'actualité politique de l'Ontario.
Effectivement, il y a des problèmes de transport majeurs dans la partie nord de la province.
C'est la seule production francophone d'information et d'affaires publiques dans la province qui suive la nouvelle au-delà du cycle habituel des 24 heures.
Le droit de parole, c'est un droit acquis.
ONFR, c'est d'abord une présence continue sur Twitter. L'information à l'état brut.
Comment ces changements-là sont-ils accueillis dans le nord?
Les nouvelles de dernière heure. et une communauté d'abonnés de plus en plus nombreuse qui continue à croître de 10 à 15% par mois.
Restez branchés sur notre compte Twitter pour tout savoir.
ONFR, c'est aussi un site web d'information, une référence quotidienne avec des reportages approfondis.
Il y a bien des questions qu'il faut demander et je pense que c'est des questions que le gouvernement a besoin de répondre.
Des analyses qui font réfléchir, du contenu exclusif.
Et ça, c'est du jamais vu.
Des angles différents de traitement de la nouvelle.
Une situation sans précédent en Ontario.
ONFR, c'est enfin une émission hebdomadaire à la télé et sur le web. Un temps d'analyse et de réflexion pour comprendre l'essentiel de l'actualité politique de l'Ontario. Une tribune crédible où les enjeux les plus marquants à Queen's Park et dans la francophonie ontarienne sont expliqués, décortiqués par une équipe de journalistes chevronnés.
Est-ce que le budget a répondu à ces attentes-là?
Et par le biais d'entrevues et de reportages au cœur de l'action.
Nous abordons tous ces enjeux aujourd'hui avec le ministre de l'Énergie, Bob Chiarelli, qui nous accorde une entrevue exclusive.
ONFR informe et élève le débat sur la scène politique en Ontario.
Bienvenue à ONFR.
À toutes les mamans du monde, nos vœux les plus sincères pour la fête des mères.
Maman, oh maman, toi qui m'as donné tant de tendresse depuis tant d'années, tu le sais bien, quand je serai grand, je penserai à toi, maman. Maman, oh maman, le jour et la nuit, je veillerai toujours sur ta vie. Je serai là à tous les instants pour te protéger, maman. Je te promets, si jamais tu pleures, de te serrer fort sur mon cœur.
Rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, voilà le voile.
Adrabène la cosa, ding-e-dong.
Non, ding
et dong.
Écoutez la planète chanter.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM. À tous les amis qui sont à Toronto, je ne sais pas s'il fait froid ou s'il fait chaud, mais nous, nous sommes ici en direct sur la Croisette avec Madame Moisan et aussi plusieurs invités de nos amis de Cannes Festival. Ça se fête hein, quand même. C'est la plus grande fête, le plus grand rendez-vous culturel parmi les plus médiatisés du monde, le Festival de Cannes, qui a ouvert ses portes, je vous rappelle, le 9 mai dernier. 71e édition se termine le 19 mai prochain. Nous allons, grâce à RFI et le magazine Cinéma Sans Frontières, reportages, interviews, critiques et tapis rouge, s'il vous plaît. Allez retrouver toute l'actualité de la croisette sur RFI tout au long de la semaine. Vous êtes bien là-bas à Toronto? Je vois que ça... Il y a de l'action hein, dans la campagne électorale avec des mots déplacés de Doug Ford. My people, our people. Bienvenue à Popourri Show, votre magazine réalisé grâce aux dons. Je le dis bien, grâce aux dons de nos auditeurs, auditrices, mais aussi de nos partenaires. Un grand merci. Et le mois prochain, justement, nous allons lancer notre campagne d'adhésion. Nous avons besoin de vous. Il y aura ce grand tirage d'un voyage à Costa Rica, s'il vous plaît, avec plusieurs autres cadeaux, surprises, qu'il ne faut pas rater absolument. Donc, si vous voulez garder la seule émission de langue française à l'antenne, je vous invite, madame, monsieur, à nous donner un petit coup de pouce. C'est le mois prochain, mais vous pouvez le faire dès maintenant. Madame Moisan, ça va? Vous êtes bien? Je sais que madame Marceline, la directrice fondatrice de Ciné Franco, qui sera des nôtres la semaine prochaine d'ailleurs, sera attend votre passage à l'émission dans quelques minutes. Et oui, nos voeux les plus sincères pour la fête des mamans. Je sais que ça se fête pas dans l'océan Indien ou en France, c'est déjà fait, c'est déjà passé. Mais je sais que en Australie par exemple ou en Amérique du Nord, c'est la fête des mères aujourd'hui. Alors bonne fête. Et découvrez nos prévisions, les bons plans, les prochains invités et les billets de cinéma au festival de films gays Inside Out 2018. Et Ciné Franco vous invite au festival de films La Promesse de l'Aube d'Éric Barbier. C'est dans le cadre du festival de films juifs. C'est aujourd'hui, hein, le 13 mai à 17h au Hot Dog Stand Rogers. Et oui, et puis quoi d'autre encore? Ben, l'ingénieur du son qui est à Toronto, je vous dis bien le bonjour, DJ Levera. Production animation Eric Adair avec vous jusqu'à 13h au www.cut.fm. Et oui, au menu, en ce dimanche 13 mai, 50 ans de mai 68, a-t-il changé la France? Et oui, que reste-t-il de la contestation 50 ans après l'héritage de mai 68? Parmi nos invités, Serge Julie, qui est journaliste français, l'un des cofondateurs du journal Libération, qu'il dirigea d'ailleurs de 1973 à 2006, je pense. Alain Krivine, fondateur de la jeunesse communiste révolutionnaire, un des leaders du mouvement de mai 68, tout ça vers 11h30. Et puis une exposition qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment, surtout à Paris, mai 68, vu de l'autre côté des barricades à la préfecture de police de Paris. Hommage, Morane, j'étais vraiment sous le choc mardi soir. Morane nous a quittés mardi dernier. Ce que l'on sait, retour en chanson sur une carrière d'exception. Le monde de la chanson est en deuil. Lara Fabian, que nous aimons beaucoup, nous livre ses pensées sur Facebook. Cannes édition 2018, un festival où les femmes prennent enfin leur place. Il était grand temps. Et oui, entretien avec l'artiste belgo-burundaise Kadja Nin, membre du jury qui s'exprime très très bien en français sur la situation de son pays, Burundi, qui passe par une phase incroyable, catastrophique. Et Rafiki, c'est l'incroyable succès de Wanuri Kayu, un film sur la liberté et sur l'homosexualité projeté sur la croisette en ce moment, mais peut-être jamais au Kenya, où il a récemment été interdit par les autorités de ce pays. Les coups de cœur d'Isabelle Chenou, Sophie Torlotin de Radio France Internationale en direct sur la croisette. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à tous nos amis de RFI. L'édition et mon coup de gueule peut-être de la semaine, c'est l'Europe. Pour l'Europe, c'est l'heure de vérité qui a sonné avec la décision de monsieur Donald Trump, l'autre locataire de la Maison Blanche, qui va briser cet accord signé avec l'Iran. Et oui, les élections en Ontario, qui a dit quoi sur les enjeux et les francophones de l'Ontario? Eurovision 2018, c'était la consternation hier chez les Français. Le duo français Madame, Monsieur et la chanson Merci, Merci sur ce bébé naufragé, bien reçu par le public. Mais malheureusement, la France oubliée pour cette fois-ci. C'est Israël qui en sort grand vainqueur. La France est à la 13e position. Le 17 mai prochain, c'est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, ayant pour thème cette année le droit des personnes LGBT dans le monde. Quels sont les enjeux et les avancées? Appelez-nous, envoyez-nous vos coups de cœur, votre coup de gueule, vos réflexions. Vous savez qu'en Afrique ou en Haïti, c'est pas rose pour les personnes LGBT et transgenres. Alors, pot.pourri@cut.fm, nous lirons vos commentaires tout au long de l'émission. Et les dernières nouvelles de Burundi, justement, un massacre qui choque le continent africain. Et puis hier soir, c'était un moment choc à Paris avec cette attaque au couteau à Paris, au cœur centre de Paris, qui a fait un mort. Et enfin, une personnalité importante pour célébrer la fête des mamans, rencontre avec Madame Moisan. Et je sais que Madame Marceline vous attend, Madame Moisan. Poupourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence. Merci, merci, merci. Monsieur, Madame Marceline vous attend. Hein. Elle doit partir, alors faites vite, oui, les boss de nos médias partenaires. Bonjour Marcel et bonne fête des mères. J'espère que vous allez passer du bon temps à Toronto et j'espère que le soleil brille pour vous et la famille et votre maman. Du journal Express de Toronto, chocolat, fleurs, bons sentiments, mais aussi remise en question, inégalité dans les rôles, violence sexuelle, hashtag moi aussi. En 2018, la fête des mères a-t-elle encore un sens? C'est dans le journal Express de Toronto. Et je continue. Selon les historiens, les premières traces d'une célébration de la maternité remontent à la Grèce antique lors de cérémonies printanières à la gloire de Rhéa, la mère de tous les dieux. Petite pause de quelques milliers d'années, puis on voit apparaître le Mothering Sunday en plein carême en Angleterre au 15e siècle. Très intéressant comme article. Toujours dans l'Express de Toronto, l'allée des graffitis, et ben le cœur urbain qui fait battre à Toronto. Pour d'autres, c'est un cauchemar, c'est pas de l'art. Or, les graffitis existent bien sur nos murs, partout un peu à Toronto. Ça décore le centre de notre cœur, de la ville de Toronto. Un article signé Lina Fourneau dans l'Express de Toronto. Qui est Lina Fourneau? Je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais rencontrée. Ah ben, c'est bravo. Loin de l'image négative, dit-elle, du vandalisme, l'allée des graffitis de Toronto a su prouver la richesse d'un art coloré et riche de diversité. Aussi connue sous le nom de Rush Lane, au sud de Queen, rue Queen, entre Spadina et Bathurst. Allez, il faut aller visiter ce quartier. La ruelle ne se visite pas. Non, elle se découvre, elle s'imagine et est sujet à l'émerveillement. De hashtag ONFR, après des semaines de campagne non officielle, la joute électorale est officiellement en marche en Ontario. Et oui, signe du temps, la semaine politique a été marquée par le premier débat et le départ des autobus de campagne. Les francophones préparent leur site de doléances, leur liste de doléances plutôt pour les élections. Les organismes leaders comptent sur les 4 semaines de campagne pour sensibiliser les candidats, candidates aux différents dossiers. En point de mire, l'Université de l'Ontario français. L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario compte sur les membres de son conseil d'administration répartis dans les différentes régions de l'Ontario pour rencontrer le plus grand nombre de candidats possibles. Comme en 2014, l'organisme, l'AFO, a transmis un formulaire aux différents partis sur les enjeux francophones. Les réponses devraient être dévoilées le 23 mai prochain et soyez des nôtres pour avoir des indices de ce sondage. Doug Ford, le grand patron Manitou, le chef de file progressiste conservateur de l'Ontario, ils ont passé une partie de la journée de mardi, me dit-on, à expliquer aux médias, aux électeurs ontariens, pourquoi une candidate locale avait embauché des acteurs pour prétendre être des partisans conservateurs à l'extérieur du lieu du premier débat des chefs. Incroyable! Êtes-vous acteur? Actrice? Le Parti progressiste conservateur de l'Ontario se dirige toujours vers une victoire aux élections générales du 7 juin prochain, confirme un nouveau coup de sondage de Main Street Research. En France, attaque au couteau à Paris, 2 morts, dont l'assaillant, et 4 blessés. Horrible, l'homme aurait crié « Allah Akbar » avant d'être abattu par les forces de l'ordre, Daesh, et je pense à derrière cette dernière attaque à Paris. Mohamed VI, le roi Mohamed VI du Maroc, et Leila Salma, sa femme, sont-ils séparés? Ben, c'est mystère, mystère et boule de gomme. Décidément, il y a des jours où la profession est remise en question. La profession dans le monde des médias, bien sûr. Eh ben, cette fake news reprise inconsciemment par des médias étrangers, sans prendre en compte les principes élémentaires de la profession, le divorce du roi Mohamed VI du Maroc avec son épouse, la princesse Leila Salma, est devenu l'attraction médiatique pour les confrères espagnols et algériens. La calomnie irrite les hommes et ne les corrige pas. La nouvelle qui fait le buzz dans le monde des médias cette semaine, le quotidien La Presse à Montréal, le grand quotidien La Presse, qui ne connaît pas le journal La Presse à Montréal, eh ben non, c'est mardi dernier qu'il va devenir un organisme à but non lucratif. Power Corporation, qui était propriétaire de La Presse depuis 51 ans, a décidé de se départir du quotidien sans toutefois procéder à une transaction de vente. La version tablette de La Presse existe depuis environ 5 ans. Et bien entendu, le monde de la publicité numérique a grandement changé durant cette période, affectant profondément les revenus générés par La Presse Plus. Au Mali, activité sismique d'origine non identifiée dans le plateau central. Qui a dit quoi cette semaine? Eh ben, du magazine Jeune Afrique, l'éducation participe à la perpétuation du racisme. Ce sont les propos du professeur congolais émérite d'anthropologie de l'université de Sao Paulo au Brésil, professeur Kasengenga Munenga, et qui défend le système de quotas en faveur des Noirs dans les universités. Il est régulièrement invité d'ailleurs à débattre sur le sujet et aussi à donner ses conseils à des institutions. Dans cette interview au magazine Jeune Afrique, l'universitaire note les progrès et les erreurs commises par le Brésil dans sa tentative de devenir un pays plus égalitaire. Quand la censure brime les droits en Chine, eh ben l'Eurovision, qui a été vue par des milliers de téléspectateurs hier, y compris moi, l'Eurovision, eh ben c'est un peu de trop pour de LGBT pour la Chine. Et oui, la Chine, la chaîne de télévision chinoise Mango TV a décidé de flouter les drapeaux LGBT affichés dans le public de l'Eurovision 2018. Est-ce qu'il y en a des Chinois LGBT dans le monde? Certains pays ont également été tout bonnement oubliés, les artistes, les représentants, ne convenant pas aux standards du régime communiste chinois. Et puis ce matin, nous avons reçu le résultat d'un sondage en Belgique, réalisé en Belgique. Plus de 44% de jeunes LGBT ne se sentent pas en sécurité dans les écoles de ce pays. Qu'en est-il dans nos écoles à Toronto, en Ontario ou au Canada? Dossier LGBT toujours qui fait le buzz cette semaine. Cette fois-ci, c'est à Québec. Un juge de Joliette, la ville de Joliette, au Québec, qui doit trancher le sort d'un enfant mis au monde coopérativement par un couple de lesbiennes et un homme trouvé sur Internet qui demande au gouvernement de permettre à un enfant d'avoir 3 parents. Le couple a éclaté, se sont séparés, mais les droits individuels continuent à prendre soin de la fillette, maintenant âgée de 3 ans. La loi au Québec, en ce moment, devrait reconnaître cette situation, selon le magistrat, parce que l'impossibilité actuelle pose problème eu égard à la réalité sociale de 2018. Intéressant, n'est-ce pas? Et oui, mon édito pour ce dimanche, Trump se retire de l'accord sur le nucléaire iranien pour l'Europe. L'heure de vérité a sonné. Maintenant, au moins, les choses sont claires. 16 mois après son arrivée à la Maison-Blanche, Trump, en imposant à l'Union européenne de le suivre sur ses sanctions contre Téhéran, a mis l'Europe au pied du mur. Eh oui, avec moi, dit-il, ou contre moi. Voilà le message aboyé mardi soir à ses alliés historiques. En repoussant plus loin que jamais les rives américaines de l'Atlantique, le président Tornade offre un cadeau aux Européens. Empoisonné, explosif, tout ce qu'on voudra, mais un cadeau quand même. Car ainsi ravalé au rang de vassal par Trump, sommet de lui emboîter le pas, le vieux continent a l'occasion de soigner son arthrose mortelle et de relancer la plus belle aventure politique contemporaine. Jeudi dernier, le président Macron a foncé dans l'espace qui s'est ouvert. Il a dit, je cite, « Ne soyons pas faibles, ne subissons pas », plaidant pour une souveraineté européenne qui doit conduire l'Europe à faire une puissance géopolitique, commerciale, climatique, économique, alimentaire, diplomatique propre. Après avoir tenté vainement d'amadouer et Trump, c'est sur Merkel, chancelière allemande, qu'il s'est tourné dans un discours coup de semonce à Aix-la-Chapelle et à ce partenaire obsédé par la gestion de son tas d'or, il a osé faire la leçon au nom d'une France pourtant si dépensière. Oubliez votre fétichisme perpétuel pour les excédents budgétaires et commerciaux. C'était solennel, brutal, mais nécessaire. Fin juin, selon ce que Français et Allemands décideront ou pas de faire ensemble, le sommet des dirigeants de l'Union constatera son impuissance ou sa résurrection. Madame Moisan, vous êtes prête? Célébrons, madame, monsieur, la fête des mères avec la belle et la folle, madame Moisan.
Allô?
Allô?
Oui?
Monsieur...
Oui, bonjour, madame Moisan.
Ah, comment ça va?
Ça va bien, et vous?
Ça va bien. Et vous?
Moi, ça va, très bien. Quand on est en congé, ça va toujours.
Vous êtes engorgé?
En congé, en vacances.
Mais d'où ça, vous êtes engorgé?
Pas engorgé, en vacances.
Ah, ça y est, vous êtes en congé.
Voilà.
Ah, c'est bien. Après, c'est les vacances?
Non, après Jean-Marc.
Qu'est-ce qu'il a, Jean-Marc?
Jean-Marc? Mais non, j'ai pas dit Jean-Marc.
Attendez, je remets mon appareil.
Ah, bien sûr,
là,
bonjour.
Allô?
Allô, madame Moisan?
Oui.
Vous m'entendez mieux, là?
Ah, ça y est.
Vous m'entendez mieux?
J'ai mis l'appareil.
Bon, ben c'est bien.
Ça marche.
Bon.
Alors, ça se passe bien?
Très bien.
Qu'est-ce que vous avez fait?
On a été à Dunkerque.
Oh, les pauvres.
Hein?
Qu'est-ce qui s'est passé? Un accident?
Non, 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 pas du tout. Je vous disais qu'on est allé à Dunkerque.
Comment?
On est allé. Qu'est-ce que c'est qui siffle comme ça?
Y a rien qui siffle.
On a été à Dunkerque chez ma mère.
Votre mère? C'est pas grave?
Non.
Oh, je vais appeler tout de suite alors.
Non, non.
Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a?
Rien.
Un rein?
Non, elle a rien. Tout va bien.
Oh, la pauvre.
Elle est beurrée. Tiens,
prends-la,
j'ai mon machin sur le gaz.
Mais non, il est pas dessus.
Allô?
Oui? Allô, c'est Annie?
Ah!
Oui?
Bonjour, Annie.
Bonjour, madame Moisan.
Comment ça va?
Ça va bien.
Pour votre belle maman, j'ai su.
Oh, mais vous vous trompez, madame Moisan.
La pauvre.
Vous vous trompez.
Le nez aussi.
Non. Vous vous trompez.
Ils l'ont péré.
Non. Il n'y a pas de problème.
Elle était blême?
Oh, non.
Ben, il y a de quoi?
Ne vous inquiétez pas.
Mais elle est dans le coma.
Mais non. Tout va bien, madame Moisan.
Comment?
Tout va bien.
Oui, j'ai compris. Les reins.
Non. Il n'y a pas eu d'accident.
Oui, je sais.
Ah bon?
Les dents.
Non.
Les dents aussi?
Non, Madame Moisan, non, non, tout va bien.
Oui, je sais, en plus des reins.
Oh.
S'il faut une greffe.
Non, il faut pas de greffe.
Pour ses reins.
Non, il faut pas de greffe pour ses reins.
Écoutez, je vais lui faire envoyer des fleurs. Elle est à quel hôpital?
Mais non, Madame Moisan. Oh, c'est épouvantable.
Qu'est-ce qu'il lui en fait?
Rien, il n'y a personne de malade.
Un don d'organe?
Non, il n'y a pas... Il n'y a pas eu de don d'organe. Il n'y a pas eu de don d'organe, non. Oh, c'est affreux, hein. C'est vraiment pénible.
Oui, je comprends que vous pleuriez.
Mais non, ça va. Ah, c'est terrible, hein. Ça va durer combien de temps?
Comment?
Ça va durer combien de temps?
Elle en a plus pour longtemps.
Oui.
Hein?
Si.
La pauvre.
Mais pleurez pas.
Oh, mon Dieu.
Ça devient catastrophique.
Je vais prévenir tout le monde, hein.
Oh, ben, ne prévenez personne.
Pour les prévenir pour l'enterrement.
Mais il n'y a pas d'enterrement.
C'est quand, la cérémonie?
Mais elle n'est pas morte.
Je vais venir vous voir tout de suite. Comme ça, je vous aiderai pour la veillée.
Mais il n'y a pas de veillée, il n'y a personne de mort. Là, qui veut venir pour la veillée?
Je vais préparer des sandwichs.
Mais ne préparez pas de sandwichs.
J'imagine que vous avez pas la tête à ça.
C'est pas possible. Oh, c'est pas possible.
Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins et bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo.
Imagine, you're walking along a tropical beach after an exciting day exploring one of the world's most beautiful rainforests. Well, you can turn this dream into a reality. CIUT 89.5 FM is giving away a trip for two to Capos, Costa Rica during our Sound of Your City Spring Drive. All you need to do is become a member to enter in the draw. Stay tuned or visit www.ciut.fm for more details. CIUT 89.5, Toronto.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres,
chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT
89,5 FM. Et oui, 50 ans déjà, mai 68, quel héritage. En France, mai 68 a soufflé un vent de révolte et entraîné de nombreux changements de société. Tout au long du mois de mai, escapade audio. Grâce à nos partenaires RTL, RFI, Europe 1, des professeurs, des écrivains, des historiens, Ciné Franco et les bandes sonores de l'Institut National des Archives France.
Chacun est rentré chez son automobile. J'ai retrouvé mon pas sur...
50 ans après mai 68, quel héritage ? Cinquante ans de mai 68, que reste-t-il de la contestation ? Mai 68 est un moment historique où la société française bascule dans une nouvelle ère avec l'avènement d'un monde plus interactif et l'expérience collective de la liberté. Le décryptage de Serge Julie, qui est journaliste français et il est un des cofondateurs du journal Libération, de 1973 à 2006.
Vous regardez RTL.
Toute cette semaine, vous le savez, nous nous sommes replongés dans les archives de RTL pour comprendre et expliquer les origines d'un mouvement qui a bouleversé le monde. Je veux bien sûr parler du printemps 1968 qui fête ses 50 ans cette année.
RTL Matin, 3 minutes pour comprendre.
Bonjour Serge Julie.
Bonjour.
Hier, nous évoquions De Gaulle et la rue. Aujourd'hui, à l'occasion de ce tout dernier épisode de ces 3 minutes pour comprendre, 68, nous allons tenter de dresser un bilan en nous demandant ensemble, Serge, ce qu'il reste. Écoutez d'abord ce reportage sur les femmes et la pilule, diffusé sur notre antenne, sur RTL, le 20 décembre 1967. C'était juste après l'adoption du projet de loi Neuwirth.
Désormais, les pilules seront en vente dans les pharmacies. Toute femme pourra décider elle-même du nombre d'enfants qu'elle désire et du moment choisi pour les avoir. Les seules restrictions portées à la vente de la pilule sont les suivantes. Interdiction totale aux mineurs de moins de 18 ans. Autorisation des parents pour les mineurs de 18 à 21 ans, plus ordonnance médicale. Voilà le résultat de 2 ans de bataille d'experts, de bataille politique et morale.
Oh, je suis pour. C'est pour la mère,
pour les familles où il y a déjà beaucoup d'enfants.
Mais pour ceux qui n'en ont pas. Moi, je trouve que le premier, c'est pas la peine.
Je crois que c'est une anticonception. C'est anticonceptionnel. À mon avis, c'est une chose qu'on doit prendre pour se préserver d'avoir un enfant.
Est-ce que je peux vous demander si vous êtes pour ?
Tout à fait. Afin d'être libérée d'une entrave obligatoire.
Moi, je suis mère de famille. Oui, je suis pour la pilule, pour ceux qui peuvent la supporter. Parce que j'ai 4 gosses moi-même, on est esclave, vous savez, quand vous en avez trop.
Ah, je ne sais pas, hein, qu'est-ce que je ferais, hein.
Est-ce que ça vous effraie un peu ?
Bah, il faut essayer pour voir si ça effraie. J'en ai jamais pris, je ne peux pas rien dire. Hein.
Formidable archive, une fois de plus. Serge Julie, question maintes fois posée. Que reste-t-il de 68 ?
Alors, j'ai envie de vous dire que 68, c'était il y a très longtemps. Nous avons connu depuis le chômage de masse, la nouvelle mondialisation financière et libérale, avec de nouveaux géants économiques, la révolution numérique, avec l'avènement des réseaux et des data et le développement des mouvements populistes, le monde a beaucoup changé. Pour apprécier 68 à sa juste valeur, laissons travailler les historiens.
Mais dans quelle mesure peut-on parler d'héritage ?
Ben alors, mai 68, c'est le plus grand mouvement social français du siècle dernier, plus grand encore que le Front populaire. Des millions de gens étaient impliqués dans ce mouvement en faveur de nouvelles libertés, contre des comportements autoritaires et une atmosphère qui restait quand même très puritaine. C'est un moment historique où la société française bascule dans une nouvelle ère que l'on voulait et qu'on veut toujours, moins dirigiste, plus participative, comme tous les grands rendez-vous de la liberté, je crois que cette idée et ce souvenir demeurent.
Serge, faites-vous un lien entre la révolution informatique des réseaux et les contestations des 60s?
Oui, au moins en ce qui concerne la Californie, d'où est partie la contestation étudiante des années 60. On peut dire que la révolution californienne va de l'université de Berkeley et de Stanford à la fondation d'Apple. Wozniak, l'autre créateur, et avec Steve Jobs, était à Berkeley. On peut dire que l'atmosphère post-68, hippie, sex, drug and surf, féministe et écolo, a favorisé une révolution technologique qui privilégiait l'horizontalité des réseaux contre l'autorité d'une élite détenant le savoir, contre une organisation très verticale de la société. Ça va dans le sens d'un monde plus interactif, peut-être la valeur essentielle de 68, avec de nouvelles libertés existentielles. Le monde était très vertical, il l'était moins après les 60.
Vous diriez que 68, en France et dans le monde, c'est l'échec des organisations verticales?
Absolument. Il y a eu trois grands perdants en politique en 68. De Gaulle est poussé vers la sortie. Le Parti communiste est dépassé. L'extrême gauche dévaluée. Tous les modèles politiques autoritaires sont balayés.
Serge, si mai 68 n'avait pas eu lieu, est-ce que vous pensez que la société d'aujourd'hui serait différente?
Alors, je vais sans doute vous surprendre. Je crois que mai 68 a accéléré l'histoire. Il n'en a pas modifié le cours. Ces libérations se seraient produites plus tard avec, sans doute à chaque fois, de nouvelles crises qui ont été peut-être évitées. Ces libérations sont intervenues, celles dont, auxquelles on pense, le féminisme, etc., sont intervenues dans des pays qui n'avaient pas connu la radicalité du mai français. Mais à l'inverse, la France a appris que l'auto-organisation de la société pouvait exister en dehors de l'appareil d'État, que la société pouvait avoir une existence en partie autonome. Et pour tous ceux qui y ont pris part, cela reste comme une formidable expérience collective de la liberté. Quand on parle de la liberté individualiste, tout le monde connaît. Mais la liberté collective, ça c'est beaucoup plus rare. Et je peux vous dire, en 68, c'était ça, une expérience collective de la liberté.
Merci Serge Julien, grand merci pour nous avoir fait revivre ces grands moments de mai 68 toute cette semaine sur RTL. Grand merci également à Chantal Gramin des archives de RTL.
Cinquante ans après mai 68, quel héritage ? 50 ans après, quelle évocation les événements de mai 68 inspirent-ils aux Français? Quel héritage lui attribuent-ils? Nouveau magazine littéraire a posé la question dans un sondage exclusif réalisé par Harris Interactive récemment. La connaissance de mai 68 est quasi universelle chez les Français les plus âgés, mais moins claire chez les jeunes. Sur une autre question, lorsque vous pensez aux événements de mai 68, quels sont tous les mots, toutes les images, toutes les idées qui vous viennent spontanément à l'esprit? Dans l'ensemble, 8 Français sur 10 attribuent plutôt des conséquences positives à mai 68. De façon générale, parmi les Français ayant entendu parler de mai 68, la majorité y attribue des conséquences positives, soit 79%. Ils ne sont que 17% à y attribuer des conséquences négatives et 4% des Français ne se prononçant pas. Les personnes issues des catégories populaires, soit 85%, portent un regard plus positif sur mai 68 que les personnes issues des catégories aisées, soit 77%. De 1968 à 2018, fonctionnaires, cheminots, pilotes, les appels à la grève se multiplient ces temps-ci en France. La mobilisation sera-t-elle au rendez-vous pour protester contre le projet de réforme de la SNCF et du service public? L'heure des vérités syndicales est-elle arrivée? Entretien avec Alain Krivine, fondateur de la jeunesse communiste révolutionnaire, un des leaders du mouvement de mai 68, dont on commémore le 50e anniversaire.
Le gouvernement français va-t-il être confronté à un printemps social? Les syndicats ont appelé les Français à descendre dans la rue demain, jeudi, et à faire grève pour protester contre la politique actuelle. La grève commence d'ailleurs dès ce soir, 20h, à la SNCF. Avec nous pour en parler, Alain Krivine. Bonsoir.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'une des figures majeures du mouvement de mai 68, dont on célèbre le cinquantenaire. On va bien entendu y venir au cours de cette entrevue. Vous avez fondé la Jeunesse communiste révolutionnaire et vous avez été, on le sait, pendant longtemps à la tête de la LCR, la Ligue communiste révolutionnaire. Vous êtes désormais membre du NPA, le nouveau parti anticapitaliste, qui est donc la nouvelle forme de la LCR. Alors, demain, jeudi 22 mars, mobilisation sociale à l'appel des syndicats. 22 mars, Alain Krivine, c'est une date qui est tout sauf anodine pour vous, on imagine.
Ben oui, parce que il y a le mouvement du 22 mars à Nanterre, qui a juste succédé à l'arrestation d'étudiants qui avaient attaqué l'American Express avec des cocktails Molotov. Et notamment, il y en avait un de chez nous qui est mort maintenant, qui s'appelait Xavier Langlade. Mmh. Et ça a donné naissance, deux jours après, au mouvement du 22 mars, où il y avait d'une part Cohn-Bendit, et d'autre part, quelqu'un de chez nous qui est mort aussi, le philosophe Daniel Ben Saïd.
22 mars 1968, précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui mai 68.
Je ne sais pas si c'est précurseur. Moi, personnellement, j'aime pas les commémorations parce que c'est souvent des enterrements. Mais en tout cas, je crois que mai 68 nous a appris qu'il pouvait y avoir des explosions sociales quasiment spontanées, sans véritable préparation, ce qui ne veut pas dire que ça peut aboutir. Et j'espère que demain, le 22 mars, justement, ça tombe bien, il y aura véritablement une explosion massive. Chez les cheminots, c'est quasiment acquis. Chez les fonctionnaires aussi. Et je pense qu'il y aura des très grosses manifestations, tout en regrettant qu'elles n'aient pas lieu ensemble.
Alors vous y serez demain dans le cortège à Paris, avec quel message, au juste, quel mot d'ordre?
Ben moi j'y serai parce que c'est une manif importante, c'est deux manifs importantes qui vont se rejoindre. Le mot d'ordre est justement qu'elles puissent se rejoindre, et je trouve que c'est très bien l'appel qui a été lancé par notamment Olivier Besancenot, mais repris par le PC, par y compris l'organisation de Mélenchon, c'est d'essayer au moins contre Macron et sa politique que je juge complètement réactionnaire, de faire l'unité dans l'action, la coordination des luttes. C'est ce qu'on essaye de faire à Bordeaux autour de Poutou et de Ford, et c'est ce qui, j'espère, aura lieu demain.
En quoi réformer la SNCF, qui connaît des graves difficultés, à Alain Krivine, est-il réactionnaire?
Mais je crois que réformer en tant que tel, ça dépend quelle réforme. Mmh. Si c'est pour casser le statut des cheminots, expliquer comme maintenant on le fait dans la presse et ailleurs que ce sont des nantis, alors que je veux dire c'est totalement faux. Aujourd'hui les cheminots, ils sont des agents de la fonction publique et ils servent avec des horaires infernaux, avec quelques petits avantages qu'il y a dans toutes les professions. Je trouve qu'il y a une campagne contre les cheminots qui est proprement scandaleuse. Et Besancenot a raison de dire que en fait, on est tous des cheminots.
En quoi ce serait risqué d'ouvrir la SNCF à la concurrence, selon vous?
Mais je crois que, y compris les exemples en Europe le montrent, que dès qu'on ouvre à la concurrence, c'est la recherche du profit, et à ce moment-là, c'est non seulement la remise en cause du statut des cheminots, mais la remise en cause du statut même national de la SNCF, avec la multiplication des petites lignes privées, la liquidation d'une série de lignes pour faire du profit, et tout ça, je crois que c'est très dangereux, extrêmement dangereux, comme c'est le cas d'ailleurs dans d'autres pays d'Europe.
Emmanuel Macron est président depuis près d'un an. Alain Krivine, avant, on savait qu'un gouvernement était de gauche, socialiste, avec des alliances, notamment. On a vu la gauche plurielle. Ensuite, Nicolas Sarkozy, à droite, apprenait l'ouverture, notamment vers le centre et même la gauche. Aujourd'hui, c'est un gouvernement de gauche ou de droite, selon vous?
Je crois que c'est fondamentalement un gouvernement de droite, mais qui joue sur le fait que la droite mène une politique d'extrême droite, la gauche mène une politique de droite, et les gens sont paumés. Et soit ils votent plus, soit ils votent contre. On vote plus pour, on vote contre, alors contre Macron, contre Le Pen, contre Mélenchon, mais on vote contre. Maintenant, quand on vote, mais je sais que j'habite à Saint-Denis, il y a 70% de gens qui votent plus, qui s'abstiennent. Donc il y a un écœurement généralisé. Je crois que Macron a joué là-dessus, ni gauche ni droite. Il a même voulu en 68, alors il est avec lui, Cohn-Bendit et Goupil, faire une cérémonie, mais je ne sais pas s'il va fêter la manif ouvrière du 13 mai ou la grande manif gaulliste de fin mai. Bon, et du coup, je crois qu'il ne fera rien, parce que, mais pour moi, c'est un homme plus à droite que lui, on meurt, si on peut dire. Et pour moi, il y a une confusion d'esprit dans la tête des gens entre la gauche et la droite qui a permis à Macron d'apparaître comme au-dessus des classes, au-dessus de la gauche, au-dessus de la droite. Ouais. Tout ça, c'est du pipeau.
Alain Krivine, cheville ouvrière de mai 68, est avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes donc, je le disais, le fondateur de la jeunesse communiste révolutionnaire. Vous êtes resté fidèle aux idéaux de mai 68, contrairement à ceux que vous avez cités, Romain Goupil et Daniel Cohn-Bendit. On va d'ailleurs en parler. Mais peut-être d'abord quelques mots sur les clichés qui collent à la peau de mai 68. On a le sentiment que c'est un mouvement qui a été dénaturé de son côté social et ouvrier pour n'en retenir que les revendications qui ont existé, mais plutôt au niveau des mœurs. Mon corps m'appartient, il est interdit d'interdire. Est-ce votre sentiment ?
Non, parce que moi je retiens... Alors c'est vrai qu'on veut présenter mai 68 comme la révolution culturelle, la révolution sexuelle qui ont eu lieu. Mais comme dans tout mouvement social important de masse, moi je retiens surtout qu'il y a eu 10 millions de grévistes avec des drapeaux rouges sur toutes les usines.
La plus longue grève de l'histoire de France jusqu'au mois de juin.
C'est la plus grande explosion sociale. Ça a été ouvriers, étudiants en France, le maire en pan en Italie. Ailleurs, ça a été essentiellement étudiant. Pour moi, c'était peut-être pas une révolution, mais c'était une explosion sociale fantastique.
Pourquoi ça n'a pas abouti à la Tréville?
Je crois que ça n'a pas abouti parce que d'une part, il n'y avait pas de... Nous, par exemple, on existait qu'en milieu étudiant. On pouvait scander « Nous sommes tous des juifs allemands ». Mais quelques semaines avant, tout le monde s'en foutait. Donc comme disait Trotsky, je cite Trotsky une fois, quand il y a un grand mouvement social, les gens sont quotidiennement méconnaissables. Mais il n'y a pas eu de succès politique. La preuve, c'est qu'on est obligé de recommencer maintenant, parce qu'il n'y a pas eu d'auto-organisation ouvrière vraiment. Il y a eu encore un rôle important des syndicats, des partis politiques, et qui n'avaient pas du tout envie de prendre le pouvoir.
Alors vous avez répondu dans une tribune avec Alain Cyrulnik à Daniel Cohn-Bendit notamment et Romain Goupil que vous avez cité. Vous dites « Nous n'allons pas enterrer mai 68 ». Que reprochez-vous à Daniel Cohn-Bendit aujourd'hui? Certains disent qu'il a commis un hold-up sur mai 68. Est-ce votre avis?
Pour utiliser plus ou moins un hold-up, c'est-à-dire il était libertaire en 68. Je me rappelle encore les discours, même si j'étais souvent en désaccord avec lui, en 68. Puis je l'ai revu beaucoup plus tard au Parlement européen quand lui et moi on était députés. Et il est devenu libéral. Il a de beaux restes, comme on dit, sur l'homosexualité, le racisme, la lutte des femmes. Mais pour le reste, il est complètement... Ben, la preuve, maintenant, il est avec Macron. Donc il a complètement changé. Et je crois même qu'il a déclaré dans un journal qu'il en est marre de parler de 68. Il a complètement changé depuis 68, même si en 68, il y avait déjà des désaccords avec lui.
Alain Krivine, avec les réseaux sociaux, la révolution de mai 68 aurait-elle pris, selon vous, est-ce que les révolutionnaires, parmi lesquels vous étiez, auraient gagné?
Je crois qu'on ne savait pas où on allait, on savait où on n'allait pas. Donc pour moi, il n'y avait pas les conditions, malheureusement, d'une révolution victorieuse, mais il y avait toutes les conditions d'une explosion sociale fantastique en France et dans le monde.
Qu'est-ce qui aujourd'hui dans le monde, justement, vous fait penser à un mai 68? On a beaucoup parlé de la Tunisie. Est-ce que c'est du même ressort?
Ça ressemble, alors avec les mêmes carences, c'est-à-dire qu'en Tunisie, au Maroc, en Algérie ou ailleurs, il n'y a pas d'organisation, même au pluriel, capable de coordonner, d'aider à coordonner.
Il y a le syndicat puissant en Tunisie, du GTT.
Il y a des syndicats puissants, mais qui ont parfois collision avec le pouvoir. Donc c'est tout le problème du pouvoir qui a été posé à une échelle de masse par Podemos, par Syriza, Tsipras, en Grèce. Mais je veux dire, ils ont toujours, soit ils se sont adaptés au pouvoir, soit ils l'ont ignoré comme les apatistes. Mais chaque fois, le problème du pouvoir s'est posé, ils ne l'ont pas posé et ils ont échoué.
Merci beaucoup Alain Krivine d'avoir répondu à nos questions donc à la veille de ce mouvement social en France. Et la grève, on le rappelle, commence ce soir à 20h à la SNCF. Attention, notamment si vous devez...
Fait tout un monde.
Pourquoi les jeunes LGBT ne se sentent pas en sécurité dans les écoles? 17 mai 2018, c'est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, ayant pour thème cette année le droit des personnes LGBT dans le monde. Et oui, la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie a lieu chaque année, le 17 mai. C'est un événement rassembleur, un moment de convergence des actions de lutte menées contre l'homophobie et la transphobie dans le monde. Et comme à chaque année, Popori Show est fier d'en faire la promotion. Chaque année, une campagne cible est organisée pour discuter des enjeux des communautés LGBT ici à Toronto, au Québec, à travers tout le pays, mais aussi dans le monde. Dans notre confort, en Ontario, au Canada et dans quelques pays européens, on a souvent le réflexe d'oublier que chaque jour, les agressions contre les personnes LGBTQ s'expriment, et ce, partout dans le monde. À l'approche de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, le 17 mai prochain, et conjointement avec la Fondation Émergence à Montréal, on veut, si vous voulez, faire braquer un peu les projecteurs sur cette campagne 2018. Sur cet angle, il nous a semblé nécessaire de consacrer un dossier à la réalité que l'homosexualité est encore illégale dans 72 pays. L'homophobie et la transphobie sont encore bien vivantes, comme l'actualité internationale se charge régulièrement de nous le montrer. Pour atteindre l'égalité, il y a encore beaucoup de travail à faire, y compris de la part des États, dont certains sont encore très réticents à reconnaître les mêmes droits aux LGBT. Il est indéniable que bien des progrès ont été accomplis au cours des dernières décennies, mais doucement, sûrement, le nombre de lois de criminalise nos pratiques sexuelles décroît. Belize, les Seychelles ont décidé en 2016 d'abroger leur loi criminalisant les actes sexuels entre personnes de même sexe, adultes et consentantes, ramenant ainsi à 72 le nombre de pays qui criminalisent encore l'homosexualité dans le monde. Autre avancée, une reconnaissance croissante des unions, avec l'adoption de nouvelles lois dans ce sens, en Slovénie, en Finlande, en Australie, qui porte à 24 le nombre de pays qui reconnaissent les mariages homosexuels et à 29 le nombre de ceux qui offrent un statut protecteur à ces unions. En tout, ce sont 124 pays qui n'ont aucune législation anti-gay et 63 qui disposent d'une législation spécifique anti-discrimination. En Afrique, la situation est paradoxale. C'est la visibilité croissante des communautés homosexuelles qui a entraîné une augmentation des persécutions et de la répression d'État. Et comment ne pas citer Haïti et le texte de loi voté mardi 2 août 2017. Cette loi traduit une intolérance grandissante à l'égard de la communauté LGBTI, car il vise à interdire toute affirmation de l'homosexualité de l'espace public en Haïti. En 2018, nous saluons le courage et l'engagement de tous ces militants des droits des personnes LGBTQIA. Certains auteurs, comédiens, cinéastes mettent leur talent en œuvre pour nous sensibiliser aux droits des LGBT, comme sur La Croisette à Cannes cette année, Wanuri Kawi, cette femme kenyane qui veut célébrer les jeunes femmes africaines, qu'elles soient actrices, réalisatrices, créatrices de mode. Alors, son film a été très bien reçu à Cannes, cependant, la censure dans son pays, le Kenya, n'a pas été de cet avis et le film est interdit au Kenya. 17 mai prochain, Madame, Monsieur, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, un événement rassembleur et un moment de convergence des actions de lutte menées contre l'homophobie et la transphobie.
Une mère, ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça te garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits. C'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais, une éternelle gigue. Ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille. Une mère, ça se confine au bercail, c'est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles. Une mère, c'est là que ça nous protège.
Et oui, la belle Linda Lemay, bonne fête à toutes les mamans qui sont à l'écoute et toutes les mamans du monde, où que vous soyez. Et oui, madame, monsieur, je vous rappelle qu'après les nouvelles, les manchettes de Radio France Internationale, nous allons rendre hommage à notre façon à la grande diva, la grande chanteuse Morane, chanteuse belge, franco-belge, qui nous a laissé cette semaine. Et nous allons aussi passer à l'édition 2018 Cannes sur la Croisette, un festival à ne pas rater qui se termine le 19 mai prochain.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city. CIUT 89.5 FM Spring Membership Drive is just a few weeks away. So, mark your calendars for June 4th to the 10th because we have lots in store. Spread the word for the sound of your city. Stay tuned for more details.
The 2018 Lula World Festival runs from May 31st to June 10th at Lula Lounge, 1585 Dundas Street West, headlining some of the very best local and international Latin, Brazilian, jazz, folk, and global artists. Festival highlights include Olo do Mestre Memeo, indigenous reggae rock and blues by Shawit and Digging Roots, spoken word jazz poet Ursula Rucker, and African salsa star Ricardo Lembo. CIUT-FM will be giving you the chance to win tickets to all Lula World shows. Stand by for your chance to win. Lula World 2018, brought to you in part by media sponsor CIUT-FM, bringing you the sound of your city every day.
CIUT 89.5, Toronto.
Michael Ponge.
Le tour de l'actualité en 3 minutes et à la une, Hassan Rouhani qui temporise. Le président iranien affirme ne pas vouloir de nouvelles tensions au Moyen-Orient. Il l'a dit hier soir lors d'une conversation téléphonique avec la chancelière allemande Angela Merkel. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Israël a mené une série de raids aériens contre des cibles présentées comme iraniennes en Syrie. L'État hébreu accuse Téhéran d'être à l'origine du tir de roquettes un peu plus tôt vers le plateau du Golan, un territoire auparavant sous contrôle syrien mais qui est désormais annexé par Israël. Guilhem Delteille.
Pour Israël, le plateau du Golan représente un intérêt stratégique. De ses hauteurs, l'armée syrienne a bombardé des positions israéliennes situées en contrebas aux abords du lac de Tibériade, mais la souveraineté sur le Golan assure aussi un contrôle de nombreuses sources coulant vers le Jourdain, l'une des principales alimentations en eau douce d'Israël. Durant la guerre des Six Jours en 1967, l'armée israélienne a conquis ce territoire. 6 ans plus tard, lors de la guerre de Kippour, les forces syriennes ont tenté de s'y réimplanter sans succès. Depuis, une zone démilitarisée de 70 km de long a été établie entre les deux pays. Officiellement, la Syrie et Israël sont toujours en guerre. Les deux pays n'ont jamais signé de traité de paix. Les négociations achoppant toujours sur la question du Golan dont Damas réclame la restitution mais qui a été annexée par Israël en 1981. Depuis le début du conflit syrien en 2011, que ce soit de manière intentionnelle ou la conséquence de combats menés à proximité, des obus de mortiers sont régulièrement tombés dans cette zone. À chaque fois, l'armée israélienne a répliqué par des bombardements de positions syriennes, mais jamais encore elle n'avait mené d'opération d'aussi grande envergure que dans la nuit de mercredi à jeudi. Guillaume Deltaye, Jérusalem, RFI.
Un regain de tension qui fait craindre le pire. L'Union européenne appelle à la retenue. Le patron de l'ONU réclame lui un arrêt immédiat de toute activité hostile. Et en tout cas, cela se déroule dans le contexte du retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien. Hier, le Trésor américain a imposé des sanctions à 6 personnes et 3 entreprises impliquées en lien, selon lui, avec les gardiens de la révolution iranienne. Le 12 juin à Singapour, cette fois c'est fait, le rendez-vous est pris. Dans un mois tout juste, Donald Trump et Kim Jong-un se rencontreront dans la cité-État pour évoquer la dénucléarisation de la Corée du Nord. L'annonce du lieu et de la date a été faite quelques heures hier après le retour aux États-Unis de 3 prisonniers américains tout juste libérés par Pyongyang. Aucun président américain en exercice n'a encore rencontré jusqu'ici un dirigeant nord-coréen. Les secours toujours à pied d'œuvre au Kenya. Une quarantaine de personnes au moins sont mortes après la rupture d'un barrage mercredi soir au nord de Nairobi. Une rupture qui a provoqué une coulée de boue sur plus de 10 kilomètres. Les fortes pluies de ces dernières semaines auraient provoqué la rupture donc de l'infrastructure. Quelques 200 000 Colombiens privés d'électricité après un attentat, le quatrième en moins de 2 mois, attentat attribué à des dissidents de l'ex-guérilla des FARC contre des transformateurs électriques, au moment où le gouvernement colombien et l'ELN, dernière guérilla active en Colombie, ont repris hier leurs négociations de paix à La Havane.
RFI, la radio mondiale.
Il y a ce que vous écoutez sur la radio mondiale, et il y a ce que vous écoutez ailleurs, mais qui passe aussi par RFI. Car sur les 5 continents, plus de 600 radios programment des émissions ou des musiques réalisées, concoctées, sélectionnées par l'équipe de la production musicale. Il s'agit en fait d'un formidable courant d'échange entre RFI et ses radios partenaires. C'est tel groupe angolais dont la cassette nous est envoyée par Radio Luanda et dont les meilleurs extraits vont repartir via RFI vers le Chili, le Vietnam, les États-Unis. C'est aussi cet invraisemblable joueur de vielle que nous envoie Radio France Puy-de-Dôme et que l'on va écouter à Lima, Jakarta ou Kampala. Chaque mois, 8 programmes musicaux sont proposés aux radios du monde entier. Beaucoup de chansons françaises, bien sûr, mais aussi un hit parade européen, une sélection de musique tropicale, du jazz, du classique, de la musique traditionnelle et parfois de la salsa.
On a appris ce matin, vous l'avez sans doute entendu à la radio, le décès de la chanteuse Morane. Elle a été retrouvée morte chez elle hier soir à Bruxelles. Morane avait 57 ans, elle préparait un album d'hommage à Jacques Brel. Starmania, Les Enfoirés, juré aussi de la Nouvelle Star. Beaucoup de tristesse pour tous ses amis et ses fans en France comme en Belgique. Le week-end dernier d'ailleurs, elle avait encore chanté dans un concert en plein air à Bruxelles. Corinne Magne.
Morane. Une voix exceptionnelle, chaude, puissante.
J'entends son prélude de Bach.
On disait d'elle qu'elle pouvait tout chanter, même Bach.
Par Glenn Gould, ma raison s'envole.
Mais voilà, il y a 2 ans, sa voix est fatiguée. Elle se fait opérer des cordes vocales. Il va garder le silence jusqu'à la semaine dernière. C'est chez elle, en Belgique, qu'elle remonte sur scène, émue.
Ce soir, c'est une renaissance pour moi. Et c'est émouvant. Je te dis bonjour, alléluia.
Ce matin, à l'annonce de son décès, le monde de la musique est en pleurs.
C'était ma voix préférée. J'avais une passion pour cette magnifique voix, absolument unique. Quelle belle personne, quelle belle voix. Je l'ai là dans l'oreille quand on chante. Aïe, 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 c'est pas possible.
Tu me gardes à vue.
Son amie Lara Fabian, avec qui elle avait fait un magnifique duo, réagit sur les réseaux sociaux. Une partie de ma vie vient de partir avec toi. Hélène Segarra exprime son chagrin immense. Quand la France la découvre en 88 dans Starmania, elle est Marie-Jeanne, un simple personnage. Très vite, elle devient notre Morane. Et enchaîne les tubes.
son ultime album sortira en novembre, un hommage à Jacques Brel, qu'elle admirait tant.
Pourri chaud rend hommage à Morane. La chanteuse Morane est morte lundi dernier à l'âge de 57 ans. Sur les réseaux sociaux, ses amis du monde de la musique, ses admirateurs lui rendent hommage. On pouvait lire un message émouvant sur la page Facebook de Lara Fabian. Morane, merveilleuse Morane, je n'arrive pas à croire que je ne t'entendrai plus rire et chanter. Je ne peux pas croire que je ne tenterai plus me dire « Ça va ma croquette? On va faire péter les bulles ?» Toi qui avais à peine repris la voix de ta voix, toi qui vivais pour nous enchanter, toi qui faisais partie de ces rares artistes plus grandes que la musique, pas sans toi. Je suis assise ici dans mon petit bureau tout blanc à Montréal. Je ne veux pas réaliser que tu n'es plus. Je ne peux pas. Je me dis que tu vas appeler et m'engueuler parce qu'on ne se voit pas assez. Mais la vie, cette putain de vie. Mot, je nous veux encore debout, face à face. Toi, mon autre, plongé dans mes grands lacs. Moi, ton autre, levé dans ton violoncelle. Je ne veux pas ton absence. Je veux nos fous rires et nos voix mélangées. Je veux notre lien étrange. Une partie de ma vie vient de partir avec toi et je ne serai plus jamais la même. Je t'aime. Signé Lara Fabian. Hommage à Morane. C'était sur la grande place de Bruxelles, des fans rassemblés pour écouter ses plus grands succès.
Un hommage à la chanteuse Morane est en cours ce mardi soir sur la grande place de Bruxelles. De 18h à 19h, un mix de ses plus grands tubes sont diffusés. L'hommage a lieu en présence des autorités de la ville de Bruxelles et de fans venus dire au revoir à Morane. Morane était certainement l'interprète la plus talentueuse de notre pays.
Elle a commencé sa carrière dans les rues et les cafés-théâtres de Bruxelles. Sa disparition est une grande perte pour la scène musicale.
Nous lui rendrons hommage ce soir sur la grande place en diffusant quelques-unes de ses plus belles chansons et y convions tous ceux qui le souhaitent, explique Karine Lalieu, échevine de la culture de la ville de Bruxelles. Je suis profondément triste. Depuis plus de 15 ans, à travers des amis communs, j'ai pu connaître Morane au-delà de sa personnalité artistique exceptionnelle.
Le monde de la chanson perd une de ses plus belles voix. C'est une belle personne qui nous a quittés.
Elle me manque déjà, commente Philippe Close, bourgmestre de la ville de Bruxelles.
Hommage à Morane, décédée cette semaine. Lara Fabian chante « Tu es mon autre » avec Morane. Eh oui, c'était un moment émouvant à chaque fois d'entendre cette chanson. C'était en octobre 2009, lors d'un concert. Mais avant, quelques commentaires des auditeurs. Lilou, qui écrit « Je suis très ému et car j'ai admiré énormément Morane, une belle personne avec une belle voix, angélique, et au talent grandiose et inégalable. Marie-Thérèse qui écrit « Condoléances à la famille, c'est triste, si jeune. Je l'aimais, bien repose en paix, dommage. » Kat, merci pour cet hommage sincère. Quelle tristesse. Colin, quelle tristesse. Au revoir, belle Morane. Ta voix monte au ciel, cette fois-ci plus que jamais. Quelle chance j'ai eue de vous rencontrer un soir d'été à Lausanne. Après votre concert, nous avons pu échanger plein de choses ensemble. J'ai toujours votre gentille dédicace que vous m'avez offerte. Et ce soir, j'ai les larmes aux yeux. J'espère que vous ferez de beaux duos avec Johnny là-haut. Et moi, je n'oublierai jamais ce beau moment passé avec vous. Reposez en paix, et je ne vous oublierai jamais. Carlo, bonjour. Mais n'existe pas la vidéo de cette chanson en duo avec Daniel Lavoie ? Merci pour la réponse. Pripenel, trop triste, une grande dame nous a quittés. Qu'elle repose en paix. Caroline, douce pensée à Morane qui vient de rejoindre le pays des anges, d'où l'on ne revient jamais, paix à son âme. José, magnifique alchimie de deux belles artistes, que la voix si douce et si puissante de Morane se soit tue. Tant de tristesse, condoléances à sa famille. Roland qui dit adieu Morane et merci. Alpha, Morane a rejoint l'infini. Stéphanie, repose en paix Morane. Morane, je t'aime. Grégory, repose en paix Morane. Tu avais vraiment une voix magnifique.
Silence et quand j'entre, toi, tu es mon autre, la force. nous serions.
RFI, c'est la radio mondiale.
Je veux connaître le monde entier.
RFI, c'est la radio mondiale.
RFI, pour ceux qui parcourent le monde.
Et oui, madame, monsieur, vous écoutez Potpourri Show, votre magazine, l'unique magazine en français à la radio de l'Université de Toronto. Et nous remercions tous nos partenaires et toutes les personnes qui nous appuient depuis 30 ans. Et justement, cette année, plus que jamais, nous avons besoin de vous. Cette année, nous allons réaliser notre campagne d'adhésion au mois de juin au lieu du mois d'avril, au mois de mai, parce que nous sommes en pleine rénovation ici au studio. Et donc, vous pouvez toujours nous appeler ou nous inviter à vous appeler pour régler vos comptes et aussi votre abonnement. Merci à tous nos partenaires qui nous appuient depuis 30 ans. Et je vous rappelle, le grand tirage cette année, le grand prix plutôt, c'est un voyage pour deux au Costa Rica. Ouais. Les prévisions, les bons plans que nous proposent nos partenaires jusqu'au 13 mai. Donc aujourd'hui, le consulat général de France, l'Alliance française et ses autres partenaires vous invitent à participer à la dernière sprint de Toronto Comic Arts Festival. Quatre auteurs français de bandes dessinées de renom sont actuellement à Toronto et aujourd'hui c'est la dernière journée. Ces auteurs sont les invités de Toronto Comic Arts Festival qui se déroule à chaque année ici. Yvan Alagbe participera au panel Finding Your Publishing Niche. C'est déjà commencé à la Cumberland Terrace au premier étage. David B. participe aussi à ce panel avec le thème Personal Boundaries, Changing Shape of Memoirs à midi. C'est déjà commencé il y a quelques minutes au Beaton Auditorium au premier étage à la bibliothèque publique de référence de Toronto. Et Brigitte Findakli et Lois Trondheim seront aussi disponibles pour des rencontres aujourd'hui au Hinton Learning Theatre, troisième étage à la bibliothèque publique de référence de Toronto. Demain lundi, la Société d'histoire de Toronto vous invite à sa 32e Assemblée générale. C'est à 18h. C'est une façon pour vous de prendre connaissance des activités du bilan de 2016-2017 et de passer un bon moment ensemble. Il y aura aussi des postes à combler, vice-président, secrétaire et trois administrateurs. Alors, vous devez être membre en règle qui vous rend éligible pour être mis en nomination ou encore à voter. Alors, cela vous intéresse, madame, monsieur, je vous invite à téléphoner ou encore vous pouvez contacter la Société d'histoire de Toronto. info@sht.ca ou encore téléphoner au 416-634-1079. Cela se déroulera au Campbell House 160 rue Queen Street West à 19h. Convocation à l'Assemblée générale de la Société d'histoire de Toronto. Jeudi 17 mai, célébrons les auteurs et les livres canadiens au Festival des Arbres de 10h à 14h au centre Harbourfront Center. Près de 30 des meilleurs auteurs canadiens français de littérature pour enfants y assisteront. Vous pouvez aller sur le site www.forestfestivaloftrees.ca. Et dimanche prochain, mai 68, au cinéma, les films de mai 68 avec Valérie Nivelon de Radio France Internationale et Marceline, fondatrice de Ciné Franco. Et oui, Vénus, c'est un film qui fait le buzz en ce moment, surtout à Montréal. Premier long métrage de fiction d'Eshna Marjara. qui se projettera ici d'ailleurs sur les écrans du Cineplex Yonge et Dundas au centre-ville de Toronto, pas très loin de Eaton Center, du 18 au 21 mai. Et je vous rappelle que c'est un film qui a eu de très bonnes critiques à la Berlinale Talents 2016. Le film a fait ses débuts au Festival du Nouveau Cinéma en octobre dernier et a remporté le prix de la meilleure réalisatrice d'un long métrage de fiction au Festival de Whistler. Et donc la réalisatrice sera des nôtres, je pense le 20, voilà, dimanche prochain. Alors c'est un film qui aborde la diversité sexuelle et de genre par le biais de l'humour et le respect de la différence. Alors le 23 mai prochain, conférence de la Société d'Histoire de Toronto à l'Alliance Française, le thème réévaluation des ruelles de Toronto, animé par Michel Senaya, urbaniste, conceptrice urbaine. Et vous pouvez lire un très bel article d'ailleurs dans le journal L'Express de Toronto à ce sujet. Le 24 mai prochain, du 24 au 3 juin prochain, le festival de films Gay Inside Out est à l'affiche ici à Toronto. Je vous invite à participer à nos jeux concours et courez la chance de gagner vos places. Dimanche, le 27 mai, à ne pas rater, une grande rencontre. Connaissez-vous l'une des 10 personnalités les plus influentes de la francophonie canadienne? Eh bien, nous l'avons déniché. Rencontre avec Mariette Muller, présidente directrice générale du World Trade Center de Winnipeg. Eh oui, c'est bien de parler de cette francophonie hors frontières de l'Ontario. Pourquoi pas, il se passe des choses extraordinaires. D'ailleurs, si vous avez des têtes d'affiche dans votre communauté, là où vous nous écoutez, que ce soit en Haïti, au Québec, à l'île Maurice, à Madagascar, en Afrique, partout au Sénégal, eh bien, vous nous envoyez un petit message à popourri@cut.fm. Encore une fois, bonne fête des mères à toutes les mamans du monde.
Je la regarde faire, j'ai les larmes aux yeux. Mais ce n'est qu'une mère qui voudrait être le bon Dieu. Ce n'est qu'une mère qui voudrait être le bon Dieu. Pour ne jamais voir l'enfer dans le verre de mes yeux. Alors je danse vers des jours heureux. Alors je danse vers et je m'avance vers des jours heureux. Je t'aime, maman, maman. Je t'aime passionnément. Je t'aime, maman, maman. Je t'aime simplement. Quand je regarde mon père et ses yeux amoureux, elle sera sûrement la dernière dans ses bras à lui dire adieu, adieu. Elle a mal sans en avoir l'air pour qu'autour d'elle ceux qui la regardent faire ferment les yeux. Pour qu'autour d'elle ceux qui la regardent faire n'y voient que du feu. Je t'aime, maman, maman. Je t'aime passionnément. Je t'aime, maman, maman. Je t'aime simplement. Je t'aime, maman, maman. Je t'aime passionnément. Je t'aime, maman, maman. Je t'aime simplement. J'ai pas su trouver les mots pour te parler, je sais. Mais je pense être assez grand. Alors aujourd'hui j'essaie
tu l'as bien compris, je crois. Je t'aime en effet, tu l'as bien compris, je crois. Je t'aime pour de vrai. Je t'aime pour de vrai. Yeah, yeah, yeah. Je t'aime pour de vrai. Je t'aime pour de vrai. Je t'aime pour de vrai. Tu l'as bien compris, je crois. Je t'aime en effet. Tu l'as compris, je crois. Je t'aime pour de vrai.
Imagine you're walking along a tropical beach after an exciting day exploring one of the world's most beautiful rainforests. Well, you can turn this dream into a reality. CIUT 89.5 FM is giving away a trip for two to Capos, Costa Rica during our Sound of Your City Spring Drive. All you need to do is become a member to enter in the draw. Stay tuned or visit www.ciut.fm for more details. CIUT 89.5, Toronto.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Écouter est la plus grande des qualités. Écouter les enfants, les parents, les professeurs et les coéquipiers. Les discours fous des pionniers. Écoutez votre instinct et croyez en vos idées. Écoutez votre cœur et les visions encore inexprimées. Écoutez le présent et les échos du futur. Ne pas seulement entendre, écoutez. Parce que c'est seulement quand nous écoutons que nous pouvons comprendre, que nous pouvons trouver des solutions intelligentes, que nous pouvons progresser. C'est seulement en écoutant ce qui compte que nous pouvons créer des solutions qui comptent elles aussi. C'est de là que tout provient. Ce n'est pas seulement en nous, c'est notre nom.
Et oui, madame, messieurs, bienvenue à votre magazine de la francophonie, Potpourri Show, 30 ans déjà. Et ouais, c'est l'événement culturel parmi les plus médiatisés au monde, le Festival de Cannes, qui tient sa 71e édition jusqu'au 19 mai prochain. Reportage, interview, critique et tapis rouge, s'il vous plaît. Allez retrouver toute l'actualité de la croisette grâce à nos amis de Radio France Internationale. 5 femmes, 4 hommes, 7 nationalités et 5 continents. De nombreuses stars et femmes du 7e art, dont la présidente du jury, Kate Blanchett, ont pris part samedi, hier, à une montée des marches 100% féminine en faveur de l'égalité. La chanteuse burundaise Kadjanine, un autre porte-drapeau africain à la 71e édition du Festival de Cannes, après la réalisatrice kenyane Wanuri Kayu et autres cinéastes sélectionnés, elle se dit plutôt fière de représenter l'Afrique dans le jury du Festival de Cannes cette année. Entretien avec cette artiste belgo-burundaise, Kadjanine, qui s'exprime sur la situation actuelle au Burundi avec l'animateur de TV5 Patrick Simuna sur la croisette cette semaine.
Quel bonheur!
Quel bonheur de se retrouver là.
C'est magnifique, je viens de l'acheter.
C'est pas vrai?
Elle est à moi.
C'est incroyable. Mais parce que vous êtes un peu la reine de ce 71e Festival de Cannes, Kadjani.
Une invitée inattendue, puisque je suis la seule membre du jury qui ne vient pas du monde du cinéma.
Ouais.
Alors pourquoi on m'a choisie? Je ne sais pas encore, mais j'en suis ravie, hein, je ne me plains pas.
Oui, représenter un peu l'Afrique, quand même, c'est
important. Je vais vous dire une chose. La seule pression que j'ai, c'est justement celle-là. C'est de représenter un continent. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de faire honte aux miens. J'ai envie de les représenter valablement. Mais c'est tout. Tout le reste, je me laisse porter. Je suis très bien entourée aussi. Je suis entourée que de grosses pointures du cinéma. Donc, il n'y a pas de stress.
Une présidente du jury merveilleuse.
Ah, magnifique. Hein? Magnifique. Un jury très engagé. Très, très engagé. Et ça me plaît. Peut-être que c'est pour ça aussi que j'ai été invitée. C'est Cannes, c'est le tapis rouge, c'est les stars, c'est les étoiles dans les yeux. C'est une récréation pour moi. Parce qu'en ce moment, ma vie n'est pas simple. Vous savez, avec ce qui se passe au Burundi, je viens de passer 3 années rudes.
On va en parler.
C'est pas fini, ouais. C'est pas fini. Donc pour moi, c'est vraiment une parenthèse enchantée.
Et là, il y a la Croisette.
Oui.
C'est un beau soleil. On va aller faire un petit tour.
Voir.
Le temps d'écouter Mama.
D'accord.
On va reparler évidemment de ce clip incroyable réalisé avec Jeanne Moreau.
D'accord.
Kadjani. C'est pas la première fois quand même sur la Croisette, Kadja.
Eh bien si, c'est la première fois. J'ai déjà été invitée, mais j'ai du mal à aller. Par exemple, je voyais pas pour quelle raison j'aurais dû marcher sur le tapis rouge. Donc je me sens très mal à l'aise quand je n'ai pas une bonne raison d'être quelque part. Donc je suis jamais venue, c'est la première fois. Mais j'ai bien fait d'attendre.
Hein, ouais.
Parce que j'arrive en personne très importante au festival. Là.
C'est vrai.
Il n'y a pas au-dessus là.
Mais non, il n'y a personne au-dessus.
Non.
Peut-être la présidente qui est en chef.
Peut-être, sûrement. Ah.
Sûrement. On voyait il y a quelques instants ces images de Mama, de ce clip incroyable. Ça nous rappelle évidemment Jeanne Moreau qui a réalisé ce clip. Quel souvenir ça représente, parce que là, on est en plein dans le cinéma. Hein.
Pour moi, Jeanne Moreau, c'est une femme libre.
Ouais.
Une femme libre. C'était ma volonté de tourner le clip avec elle. Et quand j'ai annoncé ça à la maison 10, on m'a dit, mais Kadja, Jeanne Moreau, non mais... Hein, tu veux pas Spielberg non plus. J'ai dit, mais je vais lui demander. Elle a dit oui tout de suite. Elle était tendre, elle me tenait pour faire.
C'était merveilleux.
Elle a écrit un petit texte sur moi que je trouve extraordinaire. Non, mais vraiment, c'est une rencontre marquante. C'est-à-dire, c'est ce genre de femmes qui deviennent des sortes de modèles. Vous en avez plusieurs dans une vie, mais ça, c'en est une. C'est une femme libre.
Et puis, c'est une femme, au fond, qui représente aussi le combat des femmes. Le combat que vous incarnez aussi, Kadja.
Ça m'étonne que j'incarne
ça. Évidemment, ailleurs.
Au départ, moi, ce qui m'importe, c'est vraiment le combattre l'injustice. Comme par exemple, on ne peut pas ne pas en parler, de ce manifeste livre de ces 16 actrices. Noires n'est pas mon métier.
Ouais.
Et ça, c'est très important parce que non seulement elles souffrent de ce dont toutes les actrices souffrent généralement, ça tout le monde le sait, l'affaire Weinstein. Mais aussi, elles ont une double peine parce qu'elles sont noires. Quand on vous dit, mais vous êtes intelligente pour une noire, dommage que vous n'êtes pas blanche. Ça, c'est, on parle en 2018. Et ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Ou alors, la tigresse, la lionne. Enfin, on est des bêtes de sexe, quoi. C'est peut-être un compliment, finalement. Hein. Allez savoir. Maintenant que les langues se sont déliées, comme je vois par exemple la petite Léa Seydoux qui dit aujourd'hui que lorsqu'elle a tourné ce film qui lui a valu d'ailleurs une palme d'or.
La vie d'Adèle,
c'était un des tournages les plus terribles pour elle, pour toutes les deux, qu'elles ont souffert, vraiment maltraitées. Et quand elle a voulu parler, d'autres actrices plus âgées leur ont conseillé de ne pas parler de peur qu'elles perdent leur travail, qu'elles ne travaillent plus. C'est incroyable d'entendre ça quand même. D'avoir peur de perdre son travail parce qu'on refuse de se faire tripoter ou qu'on refuse de se faire maltraiter. Et là, on parle de la France. Je ne vous laisse pas imaginer ce que c'est dans un pays comme le Burundi où on a un dictateur aux commandes. Pour les femmes, c'est assez abominable. Je veux dire, on parle de, non seulement de persécution, de disparition, de torture, mais surtout de viol. Le viol est devenu une arme de... Non pas seulement de guerre, mais aussi de répression, de compression. C'est quelque chose d'insupportable aujourd'hui. Il faut que les gens le sachent.
Mais Cannes, ça sert à ça aussi.
Après,
c'est aussi une façon de faire porter cette voix de l'Afrique.
C'est pour ça que j'ai accepté aussi.
Ouais, c'est pour ça.
C'est pour ça aussi que j'ai accepté aussi pour parler du cinéma africain. qui lui souffre encore d'autres choses. Parce que moi, je refuse de parler de l'Afrique qui pleurniche. L'Afrique ne pleurniche pas. Il y a longtemps qu'on pleurniche plus. L'Afrique est debout. La seule chose, c'est qu'il faudrait qu'on comprenne que le cinéma, que la culture en général est une industrie qui rapporte économiquement. Il faudrait qu'on arrive à faire comprendre à nos dirigeants qui doivent investir dans la culture. Quand vous pensez, par exemple, que la mode en France pèse plus lourd que l'aéronautique et l'automobile réunis, ça veut dire plus de 150 milliards par an. Donc c'est vraiment un poids économique important, la culture, que ce soit la musique, le cinéma. Mais bon, l'Afrique, le cinéma africain, ce dont il souffre le plus, c'est un manque de moyens, c'est-à-dire des moyens, et puis des formations, les salles de cinéma. Il n'y a presque plus de salles de cinéma. C'est une industrie valable qui peut vraiment générer des emplois et économiquement rentable.
Merci
et
beaucoup.
Des grands ambassadeurs que nous sommes, ouais, aussi, les artistes.
Merci d'être cette ambassadrice, Kadja. On
Merci.
Était tellement contents.
Merci.
Et on a tellement impatience de vous voir monter ces marches.
Là, on m'attend.
Tant de films.
Merci.
Voilà, Kadja Nin, notre invitée, membre du jury du Festival
Merci.
De Cannes.
Merci beaucoup.
Et oui, Kadja Nin, madame, monsieur, voilà, justement, elle va nous interpréter un extrait de sa chanson qui fait le buzz en Belgique, en France aussi, mais aussi sur les croisettes. Cannes, édition 2018, Kadja Nin. En direct sur La Croisette, prédictions et rumeurs, nos collègues de Radio France Internationale et le magazine Tous les cinémas du monde, ils ont pris leur quartier cannois qui a débuté, je vous rappelle encore une fois, le 8 mai dernier pour ce 71e festival de Cannes. Et nous revenons un peu sur les découvertes et les coups de cœur de ce début de compétition. Nous allons en parler, bien sûr. Il ne faut pas oublier, pour la, il y a plusieurs projections, des rumeurs aussi sur la Palme d'Or. Mais le film qui nous intéresse, qui intéresse aussi nos amis de Radio France Internationale, Rafiki, un film de Wairu Kayu qui signe l'entrée du Kenya en sélection. C'est projeté dans la section Un certain regard, un film salué par la critique, racontant une histoire d'amour entre deux jeunes femmes du Kenya, mais un film interdit dans ce pays. En direct sur la croisette avec Elisabeth Lecré, Sophie Torlotin du magazine Cinéma sans frontières.
Tous les cinémas du monde.
En direct du Festival de Cannes.
Sophie Torlotin, Elisabeth Lecré.
Il y a le soleil, les palmiers, la mer dont vous entendez le flux et le reflux, les parures et les diamants, les stars sur grand écran et les apprentis acteurs, les réalisateurs qui viennent présenter leur première œuvre et les films, surtout les films. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
Comme chaque année, tous les cinémas du monde prend ses quartiers cannois sur le studio RFI dans le village international. Pour cette première émission spéciale, nous revenons sur les temps forts de ce début de 71e Festival de Cannes et nous recevrons dans quelques minutes les délégués généraux des deux sections dont RFI est partenaire, la quinzaine des réalisateurs et la semaine de la critique, ainsi qu'un documentariste italien dont le film tourné à Gaza nous a marqué, Samuni Rose.
Déclarant le 71e Festival international du film de Cannes ouvert.
C'était mardi soir sur la scène du grand amphithéâtre Lumière du Palais des Festivals. L'actrice australienne Cate Blanchett, la présidente du jury cette année, et Martin Scorsese, enlacés sur scène, déclaraient ouvert ce 71e festival. Avec aussi cette adresse de Cate Blanchett, hein, très féministe, puisqu'elle a dit « Mesdames, 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 messieurs », s'adressant aux nombreuses femmes de l'assistance. Une façon, Elisabeth, de surligner une édition plus que jamais placée sous le signe des femmes.
À noter quand même qu'il a fallu un tsunami pour que le Festival de Cannes se préoccupe réellement de ces questions. Ce tsunami, bien sûr, c'est l'affaire Harvey Weinstein, ce producteur hollywoodien accusé d'avoir violé et harcelé sexuellement des dizaines de femmes, y compris à Cannes. Du coup, cette année, chaque festivalier, chaque festivalière a reçu en même temps que son accréditation un flyer avec un numéro de téléphone. C'est une hotline qui est destinée à tous ceux et celles qui sont victimes d'agressions sexuelles durant le festival. Par ailleurs, et Thierry Frémaux, le délégué général, l'a noté à maintes reprises, le jury cette année est à 50-50, 4 femmes, 4 hommes, autour de la présidente Cate Blanchett, l'actrice australienne qui est la 12e femme à se voir confier la présidence cannoise depuis 1946.
Sans plus attendre, parce que le temps est précieux, j'appelle à me rejoindre sur scène mes chers camarades Rebecca Zlotowski, Bertrand Bonello, Cédric Clapiche et Jacques Audiard. On va reprendre son souffle pour faire un bel accueil à Monsieur Martin Scorsese.
Lui a décroché la Palme d'Or à Cannes en 1976, gravi les marches du palais un grand nombre de fois. Sa première venue sur la croisette, c'était en 1974 pour Mean Streets. Martin Scorsese, évidemment, s'en souvient encore avec émotion au micro de Roslyn Ayams.
These are honorable men.
Look, Tony, you got a way about talking about one thing and it's that.
Charlie.
You gotta be like me.
Tony.
Just be sure and tell him to be here tonight, all right?
C'était incroyable, on était là avec De Niro et Harvey Keitel aussi, je crois. On n'était pas connus, et donc on pouvait aller partout. Bon, pas à certaines soirées. On nous présentait des distributeurs, des cinéastes venant de Yougoslavie ou d'ailleurs. C'est là que j'ai rencontré Wim Wenders ou Werner Herzog. C'était extraordinaire, il y avait beaucoup de respect et on s'intéressait les uns aux autres. Je suis resté une semaine, j'ai pu voir quelques films de la sélection officielle, comme La nuit américaine de Truffaut, où nous sommes tous des voleurs de Robert Altman.
Voilà Martin Scorsese qui était lauréat cette année du Carrosse d'Or décerné en ouverture de la quinzaine des réalisateurs.
Année exceptionnelle, carrosse d'or exceptionnelle. Nous nous honorons ce soir, Martin Scorsese.
Martin Scorsese qui termine actuellement le montage de son nouveau film, The Irishman, pour lequel il a réuni Al Pacino et Robert De Niro. Un film produit par Netflix, mais qui sortira en salle également. Martin Scorsese l'a assuré, tout en expliquant qu'il allait là où il pouvait trouver des financements. Netflix, cette année, Elisabeth, c'est le grand absent, alors que l'an dernier, deux films de la plateforme avaient été montrés en sélection officielle.
Oui, Okja et The Meyerowitz Stories. Mais en fait, cette année, la plateforme de vidéo en ligne a retiré tous ces films du Festival de Cannes, de toutes les sections. Motif, les nouvelles règles du festival qui excluent de la compétition tous les films qui ne sont pas distribués en salle, ce qui évidemment exclut d'emblée tous les films Netflix de la compétition. Donc réponse quasi immédiate de Ted Sarandos, donc le patron de Netflix. Il a décidé de retirer tous ces films de la croisette, toutes sections confondues, y compris un film que je me réjouissais de voir. C'est un inédit d'Orson Welles qui s'appelle The Other Side of the Wind. Et puis aussi le film que tous les cinéphiles attendent, Roma d'Alfonso Cuarón.
On parle des thèmes qui ont fait jaser à l'ouverture, Elisabeth, mais il y en a un a priori beaucoup plus léger, mais qui a fait couler beaucoup d'encre ici et de salive.
Ça fait longtemps qu'on le disait, qu'il ne devrait pas s'arrêter pour faire des selfies parce qu'il passe en même temps les acteurs et on ne les voit pas.
Je suis surtout très curieux de savoir comment ils vont faire.
Pourquoi pas un selfie? Je veux dire, maintenant c'est devenu la mode, tout le monde en fait, donc je ne vois pas pourquoi on interdirait cela. Voilà.
Je trouve que c'est débile, un petit peu ridicule d'interdire ça puisque c'est aujourd'hui en mode la grotte de faire les selfies. Donc pourquoi l'interdire cette année et pas avant, quoi?
Je ne considère pas que les selfies soient moches, comme l'a dit Pierre Lescure. Je pense que les selfies, simplement, c'est le droit aux festivaliers d'avoir un souvenir et d'avoir une mémoire de ce festival. Et peut-être que ce festival veut devenir amnésique.
Et oui, l'interdiction des selfies sur le tapis rouge, ça peut paraître futile, mais en fait, c'est le sujet qui fait jaser tous les festivaliers. On aura compris que la révolte gronde, d'autant que les stars, elles, auront le droit de faire autant de selfies qu'elles voudront sur le tapis rouge. Trop injuste.
En attendant, la Palme d'Or, ce sera dans une semaine. Cette édition cannoise s'annonce audacieuse, peut-être plus que d'ordinaire, Elisabeth.
Oui, alors est-ce que c'est une question de calendrier? Est-ce que les films n'étaient pas prêts? Toujours est-il que, effectivement, cette édition 2018 fait le pari de la nouveauté. Alors, évidemment, il y aura toujours les vétérans dans le jargon cannois. On dit les abonnés. Cette année, pour n'en citer que trois, le Suisse Jean-Luc Godard, le Turc Nuri Bilgecalan, le Chinois Jia Zhangke. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, cette compétition fait la part belle aux nouveaux venus. Par exemple, la Française Eva Husson, l'une des trois femmes présentes dans la compétition. La Libanaise Nadine Labaki, l'Américain David Robert Mitchell. Au point que le Guardian, donc le quotidien britannique, a fait tout un article consacré aux New Kids on the Croisette, les nouveaux gamins de la croisette. Alors parmi eux, je ne l'ai pas encore cité, mais je sais qu'il a fait un film cher à votre cœur, Sophie, un film en compétition, Leto, et son nom, le nom de ce nouveau gamin sur la croisette, c'est Kirill Serebrennikov.
Я кишарен, как котлета. Время есть, а денег нету. Но мне на это наплевать.
Et oui, Leto, effectivement, un film cher à mon cœur, mais un vrai premier coup de cœur général. Vous l'aimez aussi, Elisabeth?
Beaucoup.
Donc, un film de Kirill Serebrennikov. C'est vraiment un coup de cœur des festivaliers, que l'on connaisse ou pas d'ailleurs. L'icône du rock russe Victor Tsoï, mort tragiquement à 28 ans en 1990. Plus qu'un biopic, Kirill Serebrennikov raconte l'éclosion de ce tout jeune artiste eurasien qui tente, dans les années 80, tout début des années 80, on est encore sous Brejnev, d'intégrer la scène underground rock de Leningrad. Il approche la star locale, Mike Naumenko, qui va devenir son mentor, et tombe amoureux de sa femme, Natacha. Dans un noir et blanc sublime, Kirill Serebrennikov s'autorise toutes les libertés pour montrer ces jeunes qui écoutent le rock anglo-saxon sous le manteau, qui sont fans de Bowie, de T-Rex, de Talking Heads. C'est un film bourré de créativité, de liberté, totalement emballant. On l'imagine déjà, en tout cas on l'espère très haut au palmarès. Malheureusement, Kirill Serebrennikov ne peut pas assister au triomphe de son film sur la croisette. Il est assigné à résidence en Russie, accusé de détournement de fonds, lui proteste de son innocence.
Et puis un autre nouveau venu dans la compétition, c'est un jeune cinéaste égyptien de 32 ans. Il s'appelle Aboubakar Chokhi. Et son premier film, Yomedine, raconte le voyage d'un lépreux parti à Dodane avec ses maigres bagages, retrouver la famille qu'il a abandonnée 30 ans plus tôt.
Et oui, nous remercions beaucoup Sophie Torletin et Isabelle Chenu de Radio France Internationale qui sont sur la croisette pour nous faire rêver jusqu'au 19 mai prochain, Madame, Monsieur Cannes, édition 2017. Je vous rappelle brièvement que la semaine du patrimoine haïtien se tiennent ici à Toronto du 14, donc à partir de demain jusqu'au 19 mai prochain. Et le thème retenu pour cette année, Haïti, 215 ans d'histoire, pionnier de la libération des peuples. Et vous pouvez téléphoner à Fougère Adolphe, qui d'ailleurs devait être ici aujourd'hui. Alors il est au 647-708-6248. Organisé par la Maison d'Haïti du Grand Toronto. Un grand merci à DJ Devera et le journal L'Express de Toronto. Madame Moisan, merci d'avoir été là. RTL, Lina, rendez-vous la semaine prochaine à ne pas rater le film Mai 68 en cinéma, s'il vous plaît, avec Marceline et plusieurs autres partenaires. Ici Eric Adair, je vous dis bonne fête à toutes les mamans encore une fois et je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous dimanche prochain.
Bon, haïtien sérieux. Le pays a pas changé tout bon, les fois. Et c'est nous tous qui pouvons faire changer. On le frappe même ensemble. Mouna en haut, Mouna en bas. Portant presse, mauvaise diaspora. On nous chante.
Si vous parlez de politique, allez, qu'on s'en perdit la vie. Parlez de politique, allez, pas vérité.
Bon, nous y sommes belles.
Parlez de politique, allez, qu'on s'en perdit la vie.
Ou pas bon 5 pour sous charger et puis tout en a pour échec charité. Ou si nous tournons la caille, my friend, ou t'es résident pour nos citizens. Show! Conscience! Nous devons glace la vie là. J'ai repêché. Le bonheur de la démocratie, mais la caille annonce de m'agouger. Oh yeah.
Oh
yeah. Politique c'est diplomatie, mais dans le pays non c'est hypocrisie. Oh, non, Bible la bon Dieu dit, et bon nous laisse les autres, qu'on est la caille qui dit, tu y en nous laisse les autres, allons réalité. On che san fait na paye, son point n'a poté. Je ne casse ses chaînes, y'en a vivé.
Faut
parler,
qu'on s'en perdit.
Tout ça qui vérité. C'est moi, yo chéri, explique un doudou. Est-ce qu'il n'oblige comme ça? Les deux pays.